Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888.
Philosopher consiste entre autres à apprendre à bien poser les questions. Par exemple, la question « qu'est-ce que le western ?» Si on la pose comme ça, si on dit « qu'est-ce que le western ?», eh bien ça suppose que le western renverrait à une essence. Hein, on est dans une perspective essentialiste qui postule donc qu'il y aurait des catégories qui existeraient en tant que telles, de manière indépendante. Le western existerait donc de manière indépendante par rapport aux films, aux différents films qu'on peut qualifier de western. Alors, penser une catégorie, et notamment penser un genre cinématographique, d'abord, ce n'est jamais évident, on l'a vu depuis pas mal de chroniques maintenant. Et puis, il faut savoir qu'une catégorie, c'est toujours une production de la pensée, une production intellectuelle, mais c'est aussi, en l'occurrence, quand il s'agit d'un genre cinématographique, c'est aussi une production commerciale. Pourquoi ? Parce que le genre, c'est aussi lié à une certaine conception du cinéma, comme divertissement de masse, qui s'inscrit dans une relation à la notion d'horizon d'attente. On pense qu'un film marchera mieux si les gens se disent « je vais voir un western » ou « je vais voir un film d'horreur » ou « je vais voir une comédie musicale », etc. Donc la notion d'horizon d'attente, elle est très importante lorsqu'on réfléchit sur les genres et lorsqu'on réfléchit justement sur cette relation entre catégorie intellectuelle et puis catégorie commerciale. Le cinéma, aux origines, au tout début du XXe siècle, était en fait organisé non pas du tout autour de genre, mais il était complètement multiforme, syncrétique, instable, hybride. Les réalisateurs ne se posaient pas forcément la question de savoir dans quel genre leur film allait s'inscrire. Et les genres, en fait, sont surtout devenus les piliers du cinéma classique des années 30 à la fin des années 60, en gros, avec deux soucis, en fait. Hein. Donc, comme je l'ai dit, d'abord, le souci de la conquête du public, pour que les gens aillent voir les films en sachant à quoi s'attendre et en ayant donc une attente particulière. Et puis, il y avait aussi, dans cette idée de classer les films dans des genres, il y avait aussi un souci de légitimer cet art nouveau, notamment se référant à la littérature, puisque la littérature, elle, depuis plusieurs siècles, était justement catégorisée en différents genres. Et donc, l'idée de classer les films dans des genres, c'était aussi de légitimer cet art nouveau qu'était le cinéma. Donc quand je dis que les genres sont les piliers du cinéma classique des années 30 à la fin des années 60, ça veut dire donc justement que le nouvel Hollywood qui va émerger à la toute fin des années 60 et surtout au début des années 70, ben, le nouvel Hollywood va bien sûr se construire contre l'idée de genre. Et on peut dire même d'ailleurs que le cinéma d'auteur d'une certaine manière se situe souvent contre les genres, dans la mesure où le genre c'est quelque chose qui relève, comme je l'ai dit tout à l'heure, de quelque chose peut-être d'un peu réducteur et voire de commercial. Autrement dit, comment faire un western dans le contexte de cette période du nouvel Hollywood, quand l'idée même de genre est jugée obsolète, contraignante, académique et commerciale ? Et bien je parlerai aujourd'hui d'un cas limite, un film de Jodorowsky, 1970, qui s'appelle El Topo. Alors, d'abord, El Topo, si vous avez vu ce film, vous devez déjà comprendre que c'est pas évident de savoir si une telle œuvre peut se laisser classer, peut se laisser catégoriser. Hein, c'est une œuvre qui semble vraiment rebelle à tout cadrage. Je cite Jodorowsky à propos de ce film. « J'ai pris le genre western parce que j'avais présenté Fando Ellis à New York. On n'avait pas compris. On m'avait dit « c'est trop surréaliste pour les Américains. Je vais faire un western, là ils vont venir. » Mais quand j'ai commencé à faire le western, j'ai fait quelque chose d'absolument hors de la réalité américaine. » Fin de citation. Alors effectivement, le film de Jodorowsky est tellement inclassable que les distributeurs le refusent, en fait. Personne ne veut le distribuer parce qu'il est trop violent, parce qu'il est trop sexuel, parce qu'il est trop bizarre, parce qu'il est trop grotesque, parce qu'il est trop sacrilège, parce qu'il est trop tout, en fait. Et donc, quelqu'un a l'idée de le montrer dans un cinéma un soir à minuit, après les séances classiques. Et le film va avoir beaucoup de succès dans ce cadre-là, dans ses productions à minuit. Il va même être à l'origine de la série de ce qu'on appelait les Midnight Movies. Et je vous renvoie, chers auditeurs, à un excellent documentaire qui est assez facile à trouver, qui était passé sur Arte il y a quelques années. Un documentaire de Stuart Samuels, réalisé en 2005, justement sur les Midnight Movies, avec des interviews des différents protagonistes de cette aventure. Alors, les films de minuit, eh bien, ce sont des films qui refusent les canons d'Hollywood, bien sûr, ce sont les films qui refusent l'idée de genre, et ce sont des films qui se caractérisent par une liberté totale et par des projections donc, qui sont un peu vécues comme un rituel, comme un culte païen, où notamment d'ailleurs on fume et on consomme toutes sortes de drogues dans la salle de cinéma en regardant le film. Alors, outre El Topo de Jodorowsky, on peut citer comme film très très connu, projeté comme ça dans le cadre des Midnight Movies, The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman, film culte lui aussi, le premier film de David Lynch, Eraserhead, Midnight Movie, et également le premier film de la série des zombies de George Romero, La Nuit des Morts Vivants, qui donc est lui aussi projeté comme El Topo et à la suite d'El Topo dans des cinémas new-yorkais à minuit après les séances classiques et devant un public donc, qui vit tout ça comme un culte. Alors, on voit combien d'ailleurs l'importance est grande des conditions de réception des films, hein, ce que je disais tout à l'heure. D'ailleurs, à l'époque, John Lennon, qui soutient beaucoup El Topo, qui adore ce film, veut le montrer dans la journée. Et il projette dans la journée, ça marche très mal en fait, les gens ne viennent pas, parce que justement, il manque cet aspect rituel, cet aspect magique qu'on va trouver dans ces fameuses séances de minuit.
El topo es un animal que cava galerías bajo la tierra, buscando el sol. A veces, su camino lo lleva a la superficie. Cuando ve el sol, queda ciego.
Alors, revenons à notre question, est-ce que El topo est un western ou pas, hein? Est-ce qu'on peut considérer El topo comme un western? Alors, ça commence comme un western, hein, de toute évidence, il y a un premier plan qui est sur le désert, donc un classique du genre, les westerns commencent très très souvent sur des grands espaces arides. Un westerner arrive à cheval, il est habillé à peu près comme un héros de western, plus ou moins, et sauf que très vite on va partir sur complètement autre chose, et en fait le western va faire l'objet d'allusions de temps en temps dans le film, et notamment le désert justement va être un lieu qui va revenir tout au long du film, comme un contrepoint, hein, comme un contrepoint peut-être un peu ascétique aux scènes kitsch, baroque, excessive et surchargée du reste du film. Alors les codes du western sont cités, mais ils sont souvent réinterprétés jusqu'à être quasiment méconnaissables. On peut citer par exemple les duels, puisque le personnage va devoir procéder à 4 duels contre les maîtres du revolver, mais ces 4 maîtres du revolver, il faut voir le film à cet égard, hein, c'est difficile à décrire, n'ont rien à voir avec les pistoleros classiques du western. Un genre, il se construit autour d'un certain nombre de repères. Hein, pour identifier un film comme faisant partie d'un genre, il faut retrouver un certain nombre d'indices. Or ici, chez Jodorowsky, tout est fait pour désorienter le spectateur, avec par exemple une relative autonomie des plans et des séquences. Hein, il n'y a pas une continuité narrative évidente, bien évidemment, avec un goût des contrastes. Contraste notamment entre les plongées et les contre-plongées, entre les images et la musique aussi. Il y a tout un jeu de décalage sur des musiques qui sont utilisées complètement à contre-emploi sur certaines séquences. Des orientations aussi dans une exploration de tous les états du corps. Hein, c'est un film aussi sur le corps torturé, le corps sexuel, le corps dans le plaisir, le corps dans la souffrance, etc. Et en fait, l'univers du western ne va revenir que de temps en temps, que sporadiquement, comme ça, comme un petit contrepoint. Et notamment, il revient, le western, juste après le milieu du film, au moment où El Topo s'échappe de la caverne. Il arrive au village, qui est une sorte de caricature de village de western, avec des étoiles de shérif, avec des chapeaux qui évoquent le Stetson. Et en fait, ici aussi, le western va être caricaturé dans sa violence. Parce que, par exemple, il y a toujours une violence latente ou visible dans le western. Et là, ça va devenir carrément des crimes de masse, avec des Mexicains fusillés, des Noirs pendus pour le plaisir, etc. Et donc, la violence latente, et notamment la violence raciste, latente dans beaucoup de westerns, eh bien, elle va être ici exhibée hein, de manière complètement crue. Et comme si, en fait, Jodorowsky nous montrait aussi le retour du refoulé. En guise de retour du refoulé aussi, le comble du détournement des clichés peut-être, c'est que le shérif de ce village de western, eh bien, le shérif est gay. Hein, il est homosexuel, ce qui, bien sûr, constitue un contrepoint parfait à la virilité classique du héros de western. Alors j'espère que tout ça vous aura donné envie de voir El Topo. Alors malheureusement, hein, vous avez peu de chances de le voir à minuit à New York dans un cinéma enfumé par la marijuana. Vous le verrez plus probablement en DVD ou sur votre ordinateur. Mais malgré tout, voir El Topo reste une expérience étrange et notamment une expérience qui nous conduit à interroger nos catégories. Les catégories par rapport auxquelles nous pensons les productions culturelles. Quelles sont les limites entre la culture et la contre-culture ? Quelles sont les limites entre l'art et le divertissement populaire ? Quelles sont les limites entre l'art, le grand art et puis le divertissement ? En gros, toutes ces questions eh bien, vont nous amener à poser la question de qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? À partir de quand peut-on parler d'un objet comme d'une œuvre d'art ? Et donc la prochaine chronique sera consacrée à cette question, justement, à quelles conditions peut-on considérer un western comme une œuvre d'art ?
Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les 2e et 4e dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.radiogrenouille.com.